et vous écoutez France Culture. Je préfère un cinéma rabelaisien prenant des risques visibles, un grotesque magique comme révélateur du monde. Bertrand Mandicot. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Après Philippe Druillet et la compagnie du Zerep, Mauvais Genre sera ce soir en immersion chez un autre metteur en crise et débusqueur de chimères, le cinéaste Bertrand Mandicot, auteur d'une vingtaine de films charnels et incantatoires, d'un Reich noir et blanc ou d'une flamboyance de vitrail. Des films qui sont autant d'opérations magiques, de rituels païens ou de fragments d'un folklore intime à rebrousse chair et visionnaire.
Voici Bertrand Mandicot et ses dodos, et répond aux questions d'un homme masqué, et parle de la fabrication du film musical Osmose. Étant atteint de surdité, j'ai observé les effets de la musique d'Étienne Chéri sur mon entourage. J'ai décidé de faire un film sur cette musique. J'ai beaucoup voyagé, j'ai remarqué que la nature était malade.
Bonsoir Bertrand Mandicot.
Bonsoir.
Alors c'est un extrait de « Tout ce que vous avez vu est vrai ». Est-ce que tout ce que vous allez nous dire sera vrai ?
Je vais tout faire pour qu'on y croit en tout cas.
Pour être totalement dans l'illusion. Alors, vous signez vos films sous quelle appellation ? Cinéaste, metteur en scène, montreur d'ombre, créateur d'images, grand prêtre
J'aime beaucoup le mot cinéaste, hein, qui est peut-être un peu démodé à l'heure actuelle. Oui, j'assume cette idée d'essayer d'être cinéaste. Et mon but est que les films soient projetés en salle, quoi.
Le but, c'est d'être projeté en salle. On va voir d'ailleurs à quelle fin. Donc merci d'accueillir ce soir Mauvais Genre dans ce qui est votre atelier. C'est un peu l'intérieur de votre crâne, c'est votre antre magique, c'est votre laboratoire. C'est quoi ici ?
C'est la... C'est ma peau, quoi.
C'est ma peau.
Oui. C'est-à-dire que je vois ce lieu comme une peau avec toutes les marques, toutes les cicatrices, toutes les boutures qui font que je suis ce que je suis.
Voilà. Alors vous êtes avec nous ce soir au fil de cette visite parce que paraît aux éditions Malavida un coffret 2 DVD Mandicot in the Box qui permet enfin de vous découvrir parce que comme l'écrivait dans un texte présent dans ce coffret, d'ailleurs pas comptiellement, il n'a pas toujours été facile de découvrir vos films. Bertrand Mandicot.
Eh ben oui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur des formats courts ou moyens métrages, donc ce sont des formats qu'on peut voir parfois quand ils passent à la télé à des horaires pas possibles ou les voir en festival. Et puis j'ai eu la chance tout de même qu'il y ait eu deux sorties en salle pour deux moyens métrages accompagnés d'autres courts métrages. Donc là, c'était vraiment pour moi une consécration, enfin parce que le but était vraiment cette idée de pouvoir sortir les films en salle. Et voilà, et Malavida m'a proposé de sortir un premier coffret contenant une grande partie de mes films, quoi.
Alors cette incursion dans l'univers de Bertrand Mandicot, je la ferai ce soir en compagnie bien sûr de Céline Duchesnay qui est à côté du piano. Il y a marqué. Qu'est-ce qui a marqué sur le piano, Céline ?
Un piano pour faire du bruit, mais c'est pas le piano qui m'a attiré, mon cher François, c'est plutôt ce qui est au-dessus.
Et qu'est-ce qu'il
piano.
Y a au-dessus ?
Eh bien,
on va détailler plus tard.
Je dirais une quinzaine d'ex-voto plus brillants et magnifiques les uns que les autres. Donc beaucoup de protection à côté de moi. Des yeux, des cuisses, des fesses, un œil, des cœurs évidemment qui sont là pour vous protéger les sentiments peut-être. Et alors surtout ce que j'ai remarqué c'est une petite bête dans un petit sac en plastique et dessus il est marqué jeune fille très délicate au long pubis blond. C'est un insecte avec de longs poils blonds accrochés à la place de la queue et je me suis demandé ce que faisait cette bête au milieu de tous ces ex-voto et à quoi elle protégeait, enfin de quoi elle protégeait surtout.
Bertrand Mandicot, de quoi c'est un ex-voto,
Alors ça c'est une création, c'est un collage que j'ai fait, et c'est un bijou que j'ai offert à Elina Levenson, voilà, avec qui je vis dans cet appartement.
Dans cet appartement, vous dites c'est votre peau, effectivement une peau largement tatouée et illustrée, et on va détailler minutieusement et amoureusement cet ensemble donc, qui se présente à nous. Je le ferai en compagnie de Céline, qu'on vient d'entendre, de Paco Ptielman.
Hello.
Comment va-t-il ?
Il va bien.
Il va bien. Paco Ptielman est à l'autre bout de la pièce, en arrêt devant quoi ? Sans en dire trop.
Un crâne magnifique, recouvert de pierres précieuses. Il est juste splendide. Ce crâne trône au-dessus d'une petite armoire avec dedans énormément de DVD. Des cires, me fait remarquer Christophe Beer.
Alors Christophe Beer est là également. Alors,
oui, bonjour.
Céline est là parce que c'est sa curiosité qui l'a attiré dans cet endroit. Paco est là puisque c'est
un exégète
autorisé, j'adore cette expression, de l'univers de Bertrand Mandicot. D'ailleurs, vous signez un des textes présents dans le coffret. Et Christophe Beer, alors c'est l'acteur qui est avec nous ce soir parce que Christophe Beer joue dans la dernière production, film du cinéaste Bertrand Mandicot,
qui est son premier long métrage. Et d'ailleurs, quand vous partirez, je resterai ici. Je fais partie de sa peau maintenant.
Voilà, vous êtes
d'ailleurs, j'étais là avant que vous n'arriviez. J'étais quelque part dans le décor déjà. Non, c'est un grand honneur d'avoir pu comme ça m'immerger dans son univers le temps d'une séquence. Il y a énormément de livres chez Bertrand Mandicot et tout d'un coup, je suis tombé immédiatement sur un fascicule Elvie France.
Alors Elvie France, bande dessinée pour adultes.
Donc. Voilà, et là, donc Bertrand m'expliquait tout à l'heure que La femme voilée, que je tiens en main, est une de ces bandes dessinées qui a beaucoup marqué Bertrand dans la mesure où on arrive en plein dans le domaine de l'hybridation, qui est un terme clé de son univers, puisqu'il s'agit d'une femme dont la bouche est le sexe et inversement, le sexe et la bouche. Voilà. Enfin, est-ce que je m'exprime bien ?
Disons
qu'elle a pour bouche un sexe et pour sexe une bouche.
On saura voilà. un peu plus long plus tard dans l'émission. On va commencer donc avec vous, Bertrand Mandicot, pour essayer de marquer, non pas déjà les grands thèmes, les grands axes de votre univers, mais d'abord un peu évoquer votre parcours. 21 films, on peut les aujourd'hui. 21 films réalisés, mais on va partir peut-être
Je crois que c'est un peu plus.
Encore plus.
Oui.
Avec une naissance vous avez grandi dans un village de contrebandiers, ce qui est déjà. Vous avez un ancêtre contrebandier, vous avez grandi dans le sud, et ça, c'est intéressant, cette espèce de naissance et de croissance en pays Qatar, un pays secret, un pays.
Alors oui, j'ai grandi dans le sud de la France, dans un village entre Montauban et Toulouse. Mais ce que vous évoquez par rapport à la contrebande, ce sont mes origines. J'ai un arrière-grand-père andoran qui était contrebandier, effectivement. Enfin, en tout cas, dans la famille. Enfin, je devrais pas dire ça parce que il paraît que ça se fait pas. Mais voilà, il y avait de la contrebande. Et j'aime bien cette idée de frontière, de pays qui n'en est pas un, comme l'Andorre, et le fait qu'il y ait eu des contrebandiers. Dans mes ancêtres, quoi.
Alors, vos premiers contacts avec le cinéma, puisqu'on va voir les films que vous faites ne sont pas des films faciles à décrypter. Vos premiers contacts avec le cinéma, d'abord, est-ce que c'est avec le cinéma? Est-ce que c'est avec les images fixes du cinéma? Est-ce que c'est avec la bande dessinée, l'illustration? C'est quoi?
C'est la frustration un petit peu, mon premier contact avec le cinéma. C'est-à-dire que ma première pulsion, c'était que je voulais être acteur de cinéma pendant très longtemps. Mais je pense que j'étais persuadé que l'acteur était celui qui était le moteur de l'action, quoi. Enfin, en tout cas, même celui qui pouvait dire action. C'était par la télévision, donc des bouts de films que je pouvais apercevoir. Je commençais à avoir un début de film comme ça. Mes parents m'envoyaient me coucher, et donc c'était toujours des introductions de films assez marquants, comme par exemple La Planète des Singes. Je me souviens d'avoir vu l'ouverture de La Planète des Singes, qui c'était un film assez fascinant. Et puis au moment où le premier singe surgit sur un cheval, on m'a dit va te coucher, quoi. Et j'ai eu droit à la même chose avec King Kong, le premier King Kong. Quand King Kong sort de la forêt, le singe arrive, va te coucher. Donc voilà, l'irruption du singe, la frustration, j'allais me coucher au moment où le singe arrivait, et puis j'entendais tout de même des bribes de films, parce que mes parents écoutaient un peu la télé un peu fort, et comme ça j'ai pu imaginer et fantasmer
Alors,
le cinéma.
En définitive, c'est de là que date votre vocation de créateur d'images, puisque entendant les sons et ne voyant pas l'image, vous êtes bien obligé de suppléer, de combler le manque. Et là, vous inventez des images, vous inventez une version personnelle de King Kong et de la planète des singes.
Bah oui, en gribouillant, quoi. En dessinant, en me faisant des films, ou en reconstituant les films, et puis aussi en glanant des images dans des revues. En faisant des collages, enfin voilà, c'est peut-être comme ça que c'est né.
D'abord le graphisme plus que la prise de vue.
Oui. La prise de vue c'est venu très très tard, hein, puisque j'ai pu toucher ma première caméra quand je suis rentré dans une école de cinéma d'animation. C'est par le dessin et le collage que j'ai commencé à arriver au cinéma.
Je suis né à l'improviste, sans crier gare.
Alors votre formation, vous la faites à l'école des Gobelins, dans une section d'animation. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est par défaut ? Parce que est-ce qu'une fascination pour justement le cinéma, la ligne qui va de Disney jusqu'à, je dirais...
Oui, alors après, moi, j'ai découvert les cinéastes tchèques, Frank Meyer, les Brothers Quay, et surtout Borovchek, qui m'ont ouvert comme ça un horizon. Mais j'ai choisi le cinéma d'animation parce que j'avais cette envie de cinéma, j'avais juste mes crayons, et je me disais, ben voilà, c'est la meilleure porte pour entrer discrètement dans le monde du cinéma, c'est l'animation. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai opté pour le cinéma d'animation, mais pour moi c'était pas une fin en soi, quoi. Je vois l'animation comme un procédé de trucage, et mon envie c'était vraiment de me frotter aux acteurs, quoi.
Et justement, votre premier film d'animation, le Cavalier Bleu, me fait penser à ce que vous venez de dire sur ces films que vous entendiez sans pour autant pouvoir les voir. Il y a une scène à un moment donné où on voit une petite créature qui est dans ce lit en métal, et la porte se ferme, et sous le lit en métal de cet enfant il y a une poupée avec de longs doigts d'acier, et il y a même, je me souviens, à un moment donné, une sorte de zoom aussi sur une photo où on voit un enfant apeuré qui est entouré de peluches autour de lui, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander à quel point aussi le principe de la terreur nocturne enfant avait pu être une sorte de fil conducteur dans tous les univers que vous décrivez tout au long de au film. On a l'impression qu'on passe d'un monde à un autre, et que tout à coup, quand la nuit commence à tomber, tout peut arriver.
Il y a la terreur nocturne, mais alors ce film fait aussi écho à un endroit dans lequel j'ai grandi. Ma grand-mère vit dans le sud de la France, aussi pas très loin de là où j'ai grandi, dans une grande bâtisse qui appartenait à la famille de D'Artagnan initialement, et cette grande maison est aux trois quarts vide, quoi. Et elle est remplie de greniers où s'accumulent des objets un peu étranges, et quand j'étais enfant, j'étais beaucoup chez ma grand-mère, et voilà, je pouvais errer la nuit, enfin pas la nuit mais le jour plutôt, et la nuit j'imaginais que tous ces objets pouvaient bouger, mais le jour je me perdais dans les pièces, je me faisais peur. Enfin, de toute façon, il ne faut pas grand-chose pour avoir peur dans cette maison. Mon imaginaire s'est ouvert, hein, vraiment dans cette bâtisse, quoi. Et quand j'ai découvert les films de Schwenkmeyer et de Borovchek, comme Renaissance ou le Alice de Schwenkmeyer, tout d'un coup, il y a eu un écho évident, quoi. Ça a été tourné chez ma grand-mère. Enfin, c'était évident. Donc, c'est cette continuité-là qu'il y a dans le Cavalier Bleu.
Oui, et un autre élément, moi, qui me marque beaucoup quand je vois les films de Bertrand Mandicot, c'est que je peux pas deviner ce qui va se passer ensuite. c'est que ça défie toutes les lois de la, je sais pas quoi, de la préfiguration narrative possible. Et ça a peut-être à voir aussi avec le fait d'avoir vu des débuts de films. D'une certaine façon, c'est comme si les films qu'on voyait, en termes de narration, je parle, hein, il y a un parti pris de départ, et puis ensuite il y a une première déviation, puis une deuxième déviation, puis une troisième déviation, et un peu comme un enfant qui s'endort et qui au début se raconte une histoire, et au bout d'un moment c'est l'histoire qui se met à se raconter elle-même.
Alors oui, je sais pas. Écoute, non, c'est une très bonne définition. Je pense, moi, la construction des récits, c'est vraiment quelque chose d'un peu compliqué pour moi. J'essaye toujours de me lancer dans une écriture d'histoire en essayant de pas de refaire deux fois la même chose. Et puis quand je revois les films, après je me dis mais je suis toujours en train de faire la même chose. Et donc je m'impose des contraintes à l'écriture. J'essaye de faire varier toujours ces contraintes. Et comme un chat, j'ai l'impression que les films retombent toujours sur leurs pattes et que je creuse toujours dans les mêmes sillons, quoi, en quelque sorte.
Il y a une volonté d'aller contre la narration classique du cinéma, puisque déjà parmi les références qu'on peut glaner dans les films, il y a La Robe Grillée, Jean Rollin, Borowczyk aussi, d'une certaine façon. Ce sont des cinéastes qui s'opposent à l'idée scénaristique habituelle, cette fameuse phrase de Jean Gabin, pour faire un bon film, il faut une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Là, on est à l'opposé total de cette façon de faire du cinéma.
Oui.
Vous le revendiquez d'ailleurs dans un manifeste, le manifeste de l'incohérence.
Ah oui, le cinéma incohérent. Oui.
C'est une belle formule.
Oui. La nouvelle incohérence, puisqu'il y a eu le mouvement des incohérents qui a réellement existé, donc nouvelle incohérence. Oui, la déstructuration du récit, et en même temps, pour moi, c'est très important de raconter une histoire. Hein. Je n'arrive pas à être dans une abstraction totale, quoi. Il faut vraiment que je raconte une histoire. Je joue avec le genre, quoi, aussi. Donc j'embrasse le genre, mais je le pénètre jamais.
Alors justement, Bertrand Mandicot, vous revendiquez, on l'a entendu, le nom de cinéaste qui narre, d'un narrateur, d'un raconteur d'histoire, ça vous l'avez déclaré de façon très claire. Alors quel type d'histoire racontez-vous? Parce que si je prends justement le coffret Malavida, ce qu'il nous propose, le cavalier bleu, vous appelez à ça un rituel païen, on voit c'est des figurines animées qui ont une espèce de ballet bizarre, un peu macabre, les unes auprès des autres. Par exemple, 1000 enfants des sons du songe, c'est une petite fille qui semble tourner autour, de manière un peu ludique, en s'amusant autour d'une sorte de robot, mais un robot coiffé de fleurs et qui semble constitué d'objets du quotidien un peu assemblés, soudés bizarrement. Par exemple, il dit qu'il est mort. Alors là, c'est encore plus sidérant, puisque c'est un personnage qui... Il y a une pendaison qui a lieu en pleine campagne devant une table qui est un peu desservie. Vie et la pendaison est infinie. Le personnage est pendu, 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 il finit par retomber. Alors, à chaque fois, effectivement, on a le sentiment d'être face à un rituel, à une espèce de rituel conjuratoire, mais on ne sait pas ce qu'on conjure, à la célébration d'un culte, mais quelle divinité y adore-t-on, ou à une sorte de grande construction, je ne veux pas dire de construction automatique, mais une espèce d'agglomération d'objets qui échappe un peu. Alors, justement, quel type d'histoire racontez-vous? Ce sont des cauchemars? Ce sont de la poésie filmée? Est-ce que c'est une manière à vous de transcrire un univers personnel? C'est quoi?
À chaque fois, c'est toujours cette idée de la contrainte. Je me dis, je vais faire par exemple un western pour Il dit qu'il est mort. Hein, c'est un western. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais c'est un western. Et donc, qu'est-ce que j'aime dans le western? Qu'est-ce que je n'aime pas? Comment je peux renouveler le genre, entre guillemets? Et ce que je peux aimer dans certains westerns, c'est les westerns italiens, par exemple, c'est la dilatation d'un moment, le duel chez Sergio Leone. Et là, je me suis dit, je vais dilater autre chose, je vais dilater la pendaison et en faire une érection sans fin, quoi. Et donc, j'ai travaillé là-dessus en déplaçant certains éléments qui sont inhérents au western. Donc c'est ma lecture du western. Et après, je greffe là-dessus mes obsessions, mes histoires que j'ai du mal à analyser, à vrai dire. Hein. Je pourrais pas vous en dire plus que ça, quoi. Pour moi, le rite, il est aussi dans la façon que j'ai de tourner. C'est-à-dire, je tourne toujours sur support pellicule. Je tiens la caméra, je cadre. Et j'essaye de tout faire au tournage, enfin tous les trucages, et je suis dans un état quasiment second.
Oui, c'est ce que vous avez déclaré. L'odeur de la pellicule et de la caméra mécanique me met dans un état second. C'est-à-dire que là, c'est véritablement c'est le mécanisme qui vous crée cet effet-là, ou c'est l'idée de ce qui va se produire grâce au mécanisme.
C'est ce moment magique où la pellicule se déroule dans la caméra. C'est l'argent aussi qui coule, combien coûte un film, etc. c'est une pression pas possible. Et puis cette concentration aussi qu'il y a sur le plateau quand on tourne en pellicule, parce que tout le monde sait que voilà, la pellicule est là, et il faut pas louper le coup. Et puis comme j'ai un rapport direct avec les acteurs, puisqu'à part la caméra, il y a personne d'autre, quoi. Je suis pas derrière un combo. Je suis toujours quasiment en caméra portée, donc j'ai l'impression de jouer avec les acteurs et comme ça rentrer dans une sorte de transe pour arriver à trouver ce qui me, je sais pas, l'essence d'un plan ou une émotion ou une tension, voilà, je m'abandonne comme ça. Oh.
Box est très révélateur.
Justement, on va parler d'un film marquant qui est présent dans le coffret, Borrow in the Box.
Le personnage, donc, c'est une sorte d'hallucination de la vie de Borowczyk, mais le personnage est représenté donc par une comédienne, c'est Elina Levenson.
Oui, oui.
Bon, et son visage, le visage, c'est juste une boîte rectangulaire, c'est la caméra. Donc là, on a vraiment une matérialisation très forte du rapport charnel du cinéaste à son outil. Parce que finalement, c'est un film sur vous, Borrow in the Box également.
Oui, oui, oui. Là, c'est autre genre, hein, le biopic. genre que j'affectionne pas particulièrement. Et comment parler de Borowczyk, qui est pas vraiment quelqu'un, une figure très connue. Hein. Enfin, on va plus en parler bientôt puisque il y a un coffret qui sort et puis il va y avoir une rétrospective à Beaubourg. Hein. Mais voilà, comment en parler en le cachant aussi. En le symbolisant par cette boîte avec cet orifice. Et effectivement, je me sers d'éléments que je connaissais sur la vie de Borowczyk, sur son cinéma, mais j'essaye aussi de parler de moi et de mes obsessions, oui, en même temps.
Vous avez dû intuitivement sentir que Borowczyk avait le même rapport charnel au cinéma que le vôtre, je pense, non ?
Eh ben, en tout cas, Borowczyk, moi, ce qui m'a beaucoup plu quand je l'ai découvert, quand j'étais à l'école, donc, c'est que c'était quelqu'un qui avait commencé en faisant des films d'animation. Chaque film d'animation était un prototype, hein. Il ouvrait à chaque fois une porte vers une technique. Et ensuite, ce qui était assez nouveau pour l'époque, il a fui le cinéma d'animation pour faire des films en prise de vue réelle, avec un certain érotisme. Et pour moi, c'était vraiment un exemple, quoi. C'était ce que je voulais faire, c'est-à-dire ne pas rester enfermé dans le cinéma d'animation, mais pouvoir faire mes films en prise de vue réelle, et peut-être avec une dimension érotique, effectivement.
Lorsque mon père a rencontré ma mère, elle jouait avec sa sœur à son jeu favori. Le jeu des anges. Le jeu consiste à se laisser un peu mourir pour apercevoir les pieds des anges ou leur cul si on a un peu de chance.
Bertrand Mondico, je le répète, nous sommes dans votre atelier au 7e étage d'un immeuble parisien. C'est un ancien atelier de sculpteur. Alors dans ce coin de l'atelier, on va détailler un peu les objets que vous nous proposez. Donc il y a un nounours sur un petit vélo. Alors c'est très étonnant, là il y a une sorte de reliquaire à nounours en pluche. Qu'est-ce que c'est exactement, Bertrand Mondico ?
Alors ça, ce sont des restes de mes premiers films, des films comme Le Cavalier Bleu ou d'autres films de commande où j'utilisais beaucoup d'objets comme ça, glanés au puce, des nounours, qui avaient subi l'érosion du temps, des poupées, et je les ai tous figés derrière cette vitrine.
Ce sont ces acteurs morts.
Exactement.
Toi aussi bientôt, Christophe.
Le cimetière de vos premiers acteurs. Là, il y a un oiseau. C'est plutôt un lapin sur lequel on a greffé une tête d'oiseau à qui qu'on a doté d'ailes, qui est l'intérieur d'une grille. Là aussi, c'est un ancien héros d'un film.
Exactement. Oui. C'est un.
Quel
animal.
Film?
Alors ça, c'était un habillage pour une chaîne pour enfants. Donc j'avais créé comme ça un bestiaire imaginaire et animé tous ces animaux.
Et cette grande roue de plumes bleues, c'est quoi?
Alors ça, c'est une coiffe africaine pour des rituels qui est portée sur la tête.
Alors on parlait de rituels, là il y a une sorte de coiffure qui fait un peu penser à celle d'Ivan le Terrible, en tout cas de quelques despotes russes, ou slaves en tout cas, avec des petites médailles cousues dessus. Là aussi c'est un souvenir de film, c'est une coiffe d'un de vos acteurs, d'un personnage.
Alors, pas du tout,
c'est pas Salambo, non?
Non, c'est une coiffe turque et que je n'ai pas encore utilisée pour un film. Parce qu'il y a aussi ça, c'est les objets où on se dit, tiens, ça pourrait marcher pour un film. Donc il est là, ça c'est.
C'est comme si tu l'avais déjà utilisé. Ouais. Moi j'ai l'impression d'avoir vu.
Non, pas encore.
On peut peut-être aussi revenir sur les mots qui sont utilisés dans Borrow in the Box, parce que donc un film qui parle aussi quand même de vous, de vos obsessions. Et vous avez fait ça sous forme d'abécédaire, donc évidemment ça ne peut que me plaire, le principe de l'abécédaire. Et si on prend quelques mots par hasard, il y a le mot B comme bestialité, C comme courtisé, E comme enfermé, F comme fumée, G comme gourgandine, I comme initiation, J comme jouir. Est-ce que ce seraient des mots qui parleraient aussi de vous et de vos propres obsessions?
Ah bah oui, forcément. Ouais, sinon je les aurais pas choisis, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver des mots que je pouvais avoir en commun avec Borovchek, quoi, qui pouvaient m'inspirer et me faire rebondir, hein, sur le récit.
À côté de Borovchek, il y a d'autres figures qui ont été importantes aussi en termes de rencontres personnelles. Je pense à une des premières réalisations que tu as faites, qui était un clip pour Pigalle, si je ne dis pas de bêtises.
François Agilazzaro, oui.
Pour François Agilazzaro directement, à partir d'une chanson de Topor,
oui.
Où Topor intervient.
Exactement. Et le premier être vivant que j'ai filmé, c'était Roland Topor. Et il est mort 3 semaines après. Alors je me suis dit, si chaque fois que je filme quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup impressionné. Après, j'ai filmé François Agilazzaro, hein, pour le même clip qui se porte très bien, mais j'étais extrêmement impressionné quand je l'ai filmé. Je connaissais très bien son œuvre, son travail, mais je n'osais pas lui dire parce que j'avais peur que ça fasse un peu trop groupie. Donc, je me faisais raconter des trucs que je connaissais déjà, en l'air de rien, comme ça, en faisant semblant de pas vraiment connaître. C'était assez amusant. Moi, il m'avait raconté quelque chose qui m'avait fasciné. C'était que quand il faisait les plaques de Lanterne Magique pour le Casanova de Fellini, il était hébergé à la Villa Médicis par Balthus, et il me parlait des soirées avec Balthus, lui et Fellini. Alors ça, ça me faisait rêver, quoi, d'imaginer ces trois-là en train de parler de femmes, peut-être. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Et puis il m'a donné un conseil. Alors je sais pas s'il a aimé finalement le film dans lequel il était, mais parce qu'il me disait, moi, les poupées, ça me fait chier, belle-mère et tout ça, ça m'emmerde. Et il m'avait donné un conseil, il m'a dit, ne sois jamais gentil dans ton travail, hein, pas dans la vie. Mais voilà, j'ai toujours ça en tête, quoi, de ne pas être gentil, de pas être forcément très aimable, quoi, dans ce qu'on fait.
Alors on a évoqué Borovchek, Zvankmajer, donc grand cinéaste tchèque. Derrière, il y a toute votre vidéothèque, Bertrand Mandicot, et là, effectivement, on repère un petit peu quels sont vos points d'appui, vos sources d'inspiration et vos grands référents. Alors, un des premiers, je vois Ken Russell. C'est vrai que quand vous faites du noir et blanc, c'est un noir et blanc intensément vécu comme tel. Et puis, par contre, quand vous faites des films en couleur, je le répète, c'est le flamboyant, c'est le baroque, c'est le vitrail. On est dans quelque chose qui est totalement une espèce de couleur totalement onirique, pas du tout réaliste et encore moins naturaliste. Et donc, Ken Russell, j'imagine, a dû particulièrement vous marquer.
Ah oui, j'adore Ken Russell. Pour moi, il appartient à un groupe de cinéastes comme ça, extrêmement flamboyants, comme Shuji Terayama aussi, que j'adore particulièrement. Les Diables de Ken Russell est un film qui m'a beaucoup marqué. Et alors, il fait partie de ces cinéastes qui sont pas encore réhabilités, quoi. Ken Russell, il est mal aimé en France. Enfin, mais c'est un cinéaste important et qui a une descendance. Derek Jarman, pour moi, est un enfant de Ken Russell. D'ailleurs, c'était le décorateur sur Les Diables. Et puis Greenaway aussi. Enfin, surtout les premiers Greenaway que j'aime particulièrement, quoi.
On voit également Buñuel, Les yeux sans visage, Le Clouseau, mais Le Clouseau de l'enfer, pas Le Clouseau des diaboliques, Le Cocteau de la Belle et la Bête. Cocteau, pour vous, une référence essentielle?
Oui, oui, oui. Cocteau, c'est, j'ai l'impression que c'est vraiment le cinéaste français qui me montre la voie, quoi. Je pense souvent à lui quand je tourne, c'est, je l'évoque, quoi. Et je l'invoque.
Il y a les lèvres rouges, parce qu'il y a les robes lamées argent qu'on retrouve dans Notre-Dame des Hormones.
Oui, oui, oui.
Un
oui.
Beau film, ouais.
Il n'y a pas robe grillée, mais il doit être quelque part.
Il est derrière.
Il est derrière.
Et où sont les séries? Il s'est frappé.
Où sont les séries B? Parce que ça aussi, je sens ça dans certains films, comme par exemple Osmose, qui est une sorte de Roger Corman.
Ouais.
Ça se passe au bord d'un lac avec une créature comme typique des années 50 qui sort de l'eau.
Alors, dans ce meuble, il y a beaucoup d'Italiens, Giallo, série B, films expérimentaux, et au-dessus de la porte aussi, il y a des...
Ah, Corman est au-dessus de la porte.
Ouais. pour porter bonheur, voilà. Pour accueillir le visiteur. Alors justement, Bertrand Mandicot, vous revendiquez la narration et l'écriture du récit. Alors, quel est un petit peu le processus d'écriture de vos films? Vous partez quoi? D'une image, d'un son, d'une intuition, d'un rêve, d'un mot? Quel est le... On peut prendre un exemple ou deux pour montrer votre processus, parce que quand on voit le film, il nous est offert à nous autres spectateurs comme un moment intense de vision, de rêve, de cauchemar, d'une logique qui est une logique plutôt onirique, classiquement discursive. Alors vous, le processus qui amène à l'écriture et puis après au tournage. Comment tous les choix se décident, puisque tout est minutieusement choisi?
Alors beaucoup d'écoute de musique, la musique m'ouvre l'esprit.
Toute forme de musique, il y a un piano pour faire du bruit, mais quand vous faites pas de bruit, vous écoutez de la musique, c'est quel type de musique?
Beaucoup de choses, j'ai des périodes comme ça en ce moment, je réécoute beaucoup de Brian Eno, c'est assez varié quoi. Il y a des collages musicaux qui peuvent ouvrir mon esprit. Et après, je m'interdis de dessiner ou de faire des croquis pour chercher des idées. C'est vraiment l'écriture, quoi.
C'est-à-dire le récit littéraire.
Exactement. Genre, ouais. Et par exemple, pour Notre-Dame des Hormones, mon désir était de faire un film avec Elina Levinson et Nathalie Richard, qui forment un duo dans la vie que je trouve très inspirant. J'ai d'abord écrit une longue partition qui est une ligne de dialogue sans fin que j'ai improvisée comme ça. Et puis après, j'ai fait du montage dans ces dialogues. Et puis j'ai commencé à imaginer l'univers qui les entourait. Je suis vraiment parti des dialogues pour ça.
Pour ce film, il y a aussi la notion de collage. D'ailleurs, le mot vient d'être utilisé. Il y a aussi des collages. Là, je parlais des robes lamées argent. Il y a aussi les deux orphelines de Jean Rollin à un moment donné qui apparaissent. Il y a Cyrielle Claire en moto dans La Belle Captive. Oui. Et il y a certainement plein d'autres choses aussi. Donc c'est aussi une écriture qui joue sur le collage.
Oui, oui, dans effectivement. Alors après, c'est conscient ou inconscient, quoi. Enfin, il y a des éléments comme la robe de Delphine Seyrig, parce que je trouve que Nathalie, c'est vraiment une héritière de Delphine Seyrig, quoi. Mmh. Voilà, mais je pensais beaucoup à Céline et Julie vont en bateau quand j'ai écrit ce film. Pour moi, c'était comme les deux personnages de Céline et Julie un peu plus tard.
Mauvais genre, François Angélier.
Et comment viennent germer les images?
Et ben ensuite, je commence à faire des croquis, des recherches, des collages de photos, et petit à petit, je définis le monde dans lequel les personnages vont évoluer comme ça, quoi, en cherchant aussi des décors existants que je vais pouvoir customiser. Mais la créature, par exemple, qui est entre les deux actrices, là, elle s'est définie petit à petit par les dialogues, quoi. Ça, une ligne de dialogue par-ci, par-là, j'ai commencé à la voir apparaître, mais au début c'était vraiment une abstraction.
Alors, la créature, c'est une espèce de grosse larve, on peut dire, avec un appendice qui évoque un peu leur existence de Cronenberg. Là aussi, quelle est la fonction c'est l'inconnu, c'est l'X du film, c'est l'inconnu du film, c'est l'objet de jouissance, c'est quoi?
Cet étrange objet du désir, quoi. Enfin, c'était cette masse pourvue d'un orifice et avec un doigt qui pourrait rappeler le doigt d'E.T. d'ailleurs. Voilà, essayer de synthétiser une créature qui peut être à la fois répugnante et attirante. Donc voilà, je l'ai synthétisé comme ça.
Et qui ronronne.
Qui ronronne.
Qui a un son très particulier.
Bah, c'est des
mouches drosophiles.
C'est bizarre.
Pour vous dire la réalité. Quand je l'ai écouté, je me suis dit que c'était le son de la mouche drosophile en train de copuler. Mais je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ce son de bête.
Dites-nous tout.
Je vous assure que ça y ressemble vraiment énormément.
Ce sont des cris de bébés trafiqués, des chants de grenouilles, et puis des sons qu'on a pu faire comme ça au micro.
Que vous avez mixé.
Ça a été panaché comme ça.
Y a un autre film, 2013, Bertrand Mandicot, Préhistorique Cabaret, qui est une sorte de visite mais à l'intérieur du corps. C'est un peu vernien, mais c'est pas voyage au centre de la Terre, c'est voyage au centre de l'actrice, puisque donc Lina Levenson utilise une sorte de sonde rectale et on voyage à l'intérieur de son corps. Là aussi, quelle a été l'ambition du film ?
Faire une version du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, puisque je suis allé tourner en Islande, à l'endroit où Jules Verne a imaginé le début du Voyage au centre de la Terre. Au départ, je devais faire un autre film dans un abattoir à baleines, et Lina devait faire grimer un Fassbinder, faire un voyage au centre d'une baleine comme ça, fraîchement découpée. Et puis, je n'ai pas pu tourner dans l'abattoir à baleines, et du coup, je me suis dit, je vais partir dans un... Enfin, les paysages sont très inspirants, c'est très très beau, mais je vais m'interdire de filmer les paysages. Je vais m'enfermer dans une pièce obscure, reconstituer un cabaret, prendre des Islandais, et Lina va en maîtresse de cérémonie, va nous proposer ce voyage au centre d'elle-même. D'ailleurs, elle s'appelle La Terre dans le générique, mais c'est jamais vraiment dit. Avec cette caméra coloscopique qui devient une espèce de révélateur pour les spectateurs un peu fatigués, quoi. Enfin, les spectateurs du cabaret. C'était assez amusant parce qu'on a tourné ça dans un tout petit théâtre, dans une boîte noire comme ça, et tout autour ils avaient loué toutes les salles autour pour des communions. Donc pendant qu'on tournait ce film, il y avait plein de d'enfants comme ça, des banquets de communion, des familles, et nous on était enfermés, on suffoquait dans ce truc, j'ai mis de la fumée partout, en train de tourner enfin voilà, il y avait l'enfer au cœur des communiantes, quoi.
Je suis Elina Levenson, actrice, artiste aussi. Avec Bertrand Mandicot, nous faisons film sur film. Nous enivrons dans une cinématographie rêvée. Whale Shit est un des films que nous avons tourné en Islande il y a 2 ans. Ce film a été perdu. Ne reste plus de ce film que des instants subjectifs, gravés à jamais dans nos mémoires. Je vais donc vous raconter l'histoire de ce film perdu.
Céline Dujeunet.
J'aimerais revenir aussi sur le son dans vos films, parce que vous faites très rarement des prises de son direct, peut-être plus sur les derniers films, mais le fait que ce soit le fait que ce soit toujours décalé, et j'aimerais savoir si vous inventez la bande son à part, ou à quel moment justement de ce processus dont on parle le son intervient, parce que très souvent ce sont des voix qui ne correspondent pas à ce qu'on peut voir, ou il y a aussi ces voix que vous enregistrez qui sont souvent des voix aussi étrangères, donc ça permet d'entendre toute une musicalité des langues qui est très belle. Donc comment est-ce que vous travaillez le son?
C'est la dernière couche. Je monte d'abord mes films comme un cinéaste du muet, c'est-à-dire que sans bande son. Donc, il faut que le film fonctionne. Il faut pour moi que ça fonctionne sans son. Et ensuite, je viens de travailler cette bande son. Et ça, c'est très long. C'est le processus le plus long dans ce qui concerne mes films. C'est créer la bande-son du film, amener des bruitages, amener des musiques, moi-même composer des musiques, enregistrer des gens, en fonction des moyens que j'ai et de l'expérience aussi que je peux avoir maintenant que j'ai beaucoup pratiqué. Et donc, petit à petit, je fais monter cette sauce, cette mayonnaise, et jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre qui me semble juste. Enfin, la notion d'équilibre est toujours très, très importante dans les films, quoi. C'est comme des constructions comme ça que je mets les unes sur les autres. Et puis quand ça tient, je n'y touche plus, quoi. Ça tient. Miracle.
C'est l'élan que vous, qu'on a pu entendre, en tout cas, parmi les films que moi j'ai pu entendre, on a entendu russe, de l'islandais, du polonais, de l'anglais. Comment est-ce que vous choisissez ces langues?
Ah ben, c'est parce que je suis complètement fasciné par la musicalité des langues, quoi. Hein. Et puis en plus, je parle à peine français, donc je suis vraiment nul en anglais. Et puis je parle pas d'autant, donc je suis encore plus fasciné par les langues étrangères, par la musicalité des langues.
Parmi les musiciens qu'il y a dans tes films, il y en a un qui est revenu à plusieurs reprises, qui est Gedalia Tazartes. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez proche chez vous deux, c'est que vous avez tous les deux un caractère bricoleur, sans qu'il y ait le côté kitsch de l'artiste bricoleur, ou tu sais, le côté un peu larmoyant qu'il peut y avoir souvent. Comme une espèce de mec qui se baladerait dans la rue, qui dirait artiste bricoleur. Là, c'est l'idée de l'objet trouvé ou de l'instrument créé prend une sorte de dimension supérieure. Comment t'as rencontré la musique de Tazartes?
Je le connais pas très bien. Hein. Je connaissais son travail musical. Tazartes est très proche de Nathalie Richard, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis j'ai commencé à utiliser ses musiques dans mes films et je lui ai montré. Il m'a dit ah super, bon ben voilà, très bien. Il était ravi du résultat et était très généreux d'ailleurs par rapport à ça. Mais pour moi, Tazartes, c'est il y a une modernité absolue et puis c'est complètement universel. Ça appartient à des époques extrêmement anciennes. Il invente aussi des langages quand il chante. C'est impossible de dater du Tazartes, quoi. Et c'est ce qui me fascine assez. J'ai beaucoup de mal avec les œuvres qui s'inscrivent précisément dans une époque. J'aime bien flouter les frontières et qu'on puisse imaginer que ça appartienne à une époque très lointaine ou un futur proche, quoi.
Alors on va changer de mur, si vous le voulez bien, Bertrand Mandico. Donc on a évoqué le mur des DVD avec toutes vos références, de Clouseau jusqu'à Fassbinder, en passant par David Hockney, Ken Russell ou Tarkovsky. On a parlé du piano pour faire du bruit, des ex-voto et des nounours, du reliquaire à nounours. Et là maintenant, on se tourne vers le mur qui est en face. Et là, il y a deux énormes masques qui sont des masques visiblement... Alors là, on parlait de rituels païens. Ça évoque immédiatement quelques fêtes de la fécondité ou quelques sacrifices humains dans les profondeurs des Balkans. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que c'est un fantasme de Parisien frileux et décadent?
Tout à fait, ce sont des masques bulgares qui sont portés pour des processions comme ça au changement de saison, au printemps. Portés sur les épaules. C'est Lina qui m'a ramené ça de Bulgarie.
Puis en dessous, il y a le professeur Choron avec son écharpe à saucisse.
Un spécialiste du rituel païen. Et également, mais j'aimerais qu'on revienne à cette idée de rituel qui est fondatrice chez vous, puisque votre premier film se définissait comme tel, que j'imagine les tout derniers, on retrouve cette idée. À quoi correspond cette idée du rituel? Parce que vos films donnent cette impression d'un rituel ou d'une opération, c'était au sens alchimique du mot, au sens d'une sorte d'opération, d'incubation, d'expérimentation, même si le mot expérimental vous fait frémir, il y a quand même cette idée-là. Bertrand Mandicot.
Oui, alors
moi, magie opératoire.
Ouais, ouais, ouais. Ben je vois un culte au dieu cinéma, quoi. Hein, donc voilà. Après, à partir de ça, de la magie cinématographique, si on peut dire ça comme ça, je me lance dans des rites. Et le tournage est mon rite, quoi.
Vous conviez le spectateur à participer à ce rite sans savoir ce qu'il fait. D'ailleurs, il est là, il
exactement.
Est présent.
Exactement. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Je veux le plonger dans ce monde. Alors, je travaille vraiment sur l'inconscient, la pulsion de tournage. Voilà, j'ai du mal à pouvoir poser des mots sur ces rites, quoi.
La pellicule aussi. C'est quand même, on est dans l'ère du tout numérique et Bertrand Mandicot tourne encore en 16, 35 ou
Super 8. Parfois,
ou Super 8. Ouais. Donc y a, ça aussi, c'est quelque chose de magique. Oui, c'est vrai que là, le sens, le mot a tout son sens.
En fait, en tant que spectateur et pour avoir pu assez tardivement dans la découverte du cinéma de Mandicot, les voir enfin en cinéma et où ils prenaient vraiment tout leur sens, on a l'impression d'être un anthropologue ou d'un ethnographe plutôt qui arriverait dans une société qui est déjà coutumière d'un nombre de rites et qui les découvre pour la première fois et qui commence à participer d'une transe. C'est comme si on participait d'une religion qui a existé mais qu'on saisit pas. Plus exactement, ce serait ça. Alors, ni elle est en devenir, ni elle est disparue ou figée, elle appartient à une espèce que nous ne connaissons pas encore, ou à une partie de l'humanité que nous ne connaissons pas encore. Et donc, du coup, le phénomène rituel agit sur le spectateur d'une autre façon, d'une façon d'intrigue ou de stupeur. Et la question que j'aimerais poser à Bertrand, c'est lui-même en tant que spectateur, quand il regarde des films, est-ce qu'il est sensible à ce caractère-là aussi? Est-ce que c'est sa façon de regarder les films des réalisateurs qu'il aime ou d'ailleurs, du reste qu'il découvre?
J'aime pas forcément tout comprendre quand je vois un film, être pris comme ça par des émotions qui me dépassent, que je n'arrive pas à intellectualiser, ce qui peut être le cas chez David Lynch par exemple, hein. Je pense que c'est vraiment un cinéaste extrêmement marquant pour moi, parce que en voyant Eraserhead en particulier, je ne comprenais pas forcément tout ce qui se passait. Je me demande même si Lynch comprend tout ce qu'il fait, mais il y a un abandon comme ça, un état second, une foi dans le cinéma. Et on arrive à des films qui conservent leur propre mystère et qui, je l'espère, happent le spectateur et en les plongeant dans un état semi-second, quoi. Enfin, c'est très organique comme construction en réalité.
Et donc, du coup, tu t'es aussi intéressé à des cinémas qui sont, pour ne pas dire abandonnés ou machin, mais qui sont relativement plus mystérieux pour le spectateur de cinéphile classique, en particulier tout le cinéma bis italien et japonais.
Oui, il y a tout un pan du cinéma japonais qui me fascine, où il est question du rite païen, hein, comme dans Désir profond des dieux, par exemple, d'Imamura, qui est un film que j'adore. Il capte comme ça des rites païens qui sont liés comme ça à une île en particulier, mais ça dépasse l'histoire de l'île, quoi, vraiment. Ou quelqu'un comme Terayama, par exemple, qui, avec son théâtre et ses photographies et son cinéma, construit un univers à part entière, avec ses clés, ses codes, et ça me fascine assez, ouais.
Et c'est parce que tu le comprends pas intégralement, en fait, qui te fascine.
Bah oui, tout à fait.
Si tu pouvais le décoder intégralement, ce dont il correspondrait, il serait abandonné.
Comme chez Kenna Sanger, il y a des choses qui me... Forcément, je vois les liens avec Aleister Crowley, etc. Mais il y a une dimension qui dépasse Kenna Sanger, et c'est ça qui m'intéresse. Ouais.
J'aimerais revenir moi sur les finalement ce terme de passage aussi qui m'a interpellée, en tout cas dans un certain nombre de films. Je pense notamment là à Living Still Life et à cette idée que vous aimez jouer avec les frontières et le passage de la vie à la mort ou de la mort à la vie. Et alors ce film que moi j'ai particulièrement adoré, c'est donc l'histoire d'une femme qui erre dans une lande, un paysage, et qui ramasse des cadavres d'animaux qu'elle traîne de tout son poids et qu'elle va après photographier pour créer une sorte de petit film d'animation à partir du cadavre de la bête pour le mettre en mouvement et le mettre en vie l'espace finalement de quelques secondes. Donc il y a de mémoire, je crois qu'il y a un lapin, il y a un cheval, il y a une autre,
un chien.
Oui. Et puis on finit après par une femme morte qui va être remise à la vie pour enfin obtenir, retrouver son sourire. Et donc cette jeune femme fait ça pour son mari défunt. Et j'ai trouvé ça, moi, très beau, cette manière de passer de la vie à la mort, de la mort à la vie, et de se servir finalement de la magie du film d'animation et de la photographie pour le faire.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Mort et résurrection.
Oui, voilà, résurrection. Ben voilà, c'est jouer à Dieu le Père avec la caméra, quoi. Hein, pouvoir, pendant quelques instants, donner cette illusion de la vie. Et c'est vrai que ça m'intéressait de pousser l'expérience parce qu'il y avait beaucoup de cinéastes qui avaient travaillé avec des animaux empaillés, etc. Mais moi, je voulais vraiment filmer des cadavres frais et pas de façon morbide. Justement, c'était ça le challenge, c'est réussir à donner l'illusion de la vie en animant de façon extrêmement naturaliste ces animaux, sans les préparer, sans les équiper avec des armatures, mais en les filmant comme ça sur le flanc, comme des bas-reliefs. Et ouais, c'est une sacrée expérience, surtout le cheval. Enfin, c'était...
Bertrand Mandicot, là, vous nous parlez avec éloquence de votre cinéma, mais quel est votre rapport avec le cinéma d'aujourd'hui? Puisque dans le texte qui accompagne le coffret Malavida, Paco me dit que vous êtes favorable, enfin vous prônez un cinéma déshollywoodianisé, qui prend un axe plus orphique et messianique, celui de Cocteau et de Rivette, plutôt que celui, je le cite, bourgeois de Truffaut ou Desplechin. Donc par rapport au cinéma d'aujourd'hui, je cite très fidèlement, quel film allez-vous voir et qu'en retenez-vous et qu'en recevez-vous surtout?
Dans les films d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'adore. Je sais pas, par exemple, les films de Yann Gonzalez, dont je me sens proche, même si on fait pas tout à fait la même chose.
Voilà, c'est Léo Scarac.
À Carac, j'adore. Oui, vraiment, c'est un cinéaste très très important pour moi.
J'aimerais qu'on parle justement des acteurs maintenant. Nous en avons un parmi nous, Christophe Beer. Mais parlez-nous d'abord d'Elina, qui est votre muse, votre actrice fétiche, c'est une expression qui chez vous prend un sens particulièrement fort, 21 films avec elle.
Alors ça c'est le but qu'on s'est fixé.
Ah oui.
Le fameux 21 que vous évoquiez au départ. Elina, je connaissais son travail dans les films d'Al-Hartley ou dans Nadja de Michael Almereda. Et je l'ai abordé pour tourner dans Living Still Life initialement. Et puis j'étais aussi en train de préparer Borrow in the Box que je devais tourner avec Katia Golubeva qui n'avait pas pu faire le film et donc elle a remplacé au pied levé, j'allais dire, Katia. Et il y a eu une entente très forte, très fusionnelle. Et puis je lui ai proposé de travailler sur une collection de films, 21 films en 21 ans, en travaillant sur nos propres vieillissements, une sorte de comme ça, de collection, en jouant sur le désir du réalisateur, sur les envies d'une actrice aussi dans les métamorphoses. Et ce qui m'avait initialement, je suis assez fasciné par la fin de carrière d'Orson Welles et tous ces, enfin toute proportion gardée quand je parle de Welles, hein, bien sûr, mais tous ces fragments de films, tous ces inachevés. Et il avait avec sa compagne Jacques Audard entrepris comme ça plein de films qui n'ont jamais été vraiment achevés, même si on annonce qu'il y en a un qui va être bientôt achevé. Et j'ai beaucoup aimé voir ces fragments, une sorte de kaléidoscope de films comme ça. Et je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose avec Elina, faire chaque année un fragment d'un film inachevé. Mais j'aime achever. Donc, du coup, j'ai achevé ces fragments. Et là, on en est au septième. Ce sont des courts-métrages qu'on initie. C'est-à-dire, on ne demande pas de subvention, on les tourne comme ça. Et voilà, on construit petit à petit cette collection. Ce qui ne nous empêche pas de, par ailleurs, faire d'autres films ensemble, quoi.
Andrei Moldar.
Andrei Moldar.
Et ni un saint.
Ni un saint homme.
Ni un fou.
Il travaille depuis
bientôt 27 ans sur les mémoires sonores des plantes. Chante, crie, bruit.
Chante.
Conversation et chuchotement.
Conversation et
dorme dans les grandes tiges agitées par le vent.
Il y a une dimension musicale aussi avec Elina Levenson. Vous devez être, je pense, comme Alain Resnais, sensible aux voix des comédiens. Je crois que Resnais faisait souvent son casting à partir des voix. C'est pour ça qu'on a par exemple Laurence Badi ou Delphine Seyrig ou Guy Pierrot parmi ces comédiens. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous attirer aussi.
Ah bah oui, la voix d'Elina est complètement envoûtante, quoi. Donc c'était la première. On s'est pas vu la première fois, on s'est eu au téléphone, donc effectivement, voilà, donc c'est
exactement ce que ça
c'est par la voix que ça a commencé. Ouais.
Alors Christophe Beer, vous avez tourné avec Bertrand Mandicot. Dites-nous quelques mots de ce premier long métrage et qui est votre prochain film, Bertrand Mandicot.
Oui, c'est un film qui s'intitule Les Garçons Sauvages. Alors j'ai emprunté le titre à William Burroughs. Ce film est un télescopage, quoi, entre peut-être 2 ans de vacances de Jules Verne et Les Garçons Sauvages de Burroughs, quoi. C'est une formule un peu pour tout, mais...
Ils auraient pu s'entendre, ces deux-là, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser. Et on peut terminer cette rencontre, Bertrand Mandicot, avec le concept de mauvais gens. Est-ce qu'il a un sens pour vous? Est-ce qu'il recèle encore certaines vertus? Ou est-ce que c'est aujourd'hui une formule un peu usée?
Bah pour moi, il n'y a pas de mauvais genre. Hein. Mais mauvais genre, voilà, c'est une émission que j'écoute beaucoup. Alors ça, voilà ce que ça évoque pour moi. Je suis désolé, mais...
Il n'y a qu'un mauvais genre. Ouais.
Dernière vision, celle de votre bureau, qui est un peu vernien. D'ailleurs, on pourrait penser à la cabine d'un dirigeable ou une sorte de petit bureau d'ingénieur. Vous êtes, c'est la Tanor, c'est là où... Vous vous dissimulez pour concocter, pour méditer, pour laisser mûrir.
Oui, c'est là où je m'enferme pour chercher des idées. Mais je crois que Jean-Pierre Melville se faisait construire une petite cabane comme ça sur les tournages. J'avais lu ça. Il s'enfermait dans une boîte, un petit peu comme un contremaître.
C'était moins éclairé qu'ici.
D'accord. Bah, ouais. Chez lui.
Oui.
Mais sur les plateaux, il faisait construire sa petite cabane pour. pour retrouver ses esprits, quoi, manifestement.
Alors, une petite cabane qu'on pourra suivre, une petite boîte, Mandico in the Box, donc, oui. En définitive, le titre du coffret qui sort chez Malavida est bien trouvé. On peut y retrouver, alors, du coup, votre production de 1998 à 2012, il y a à peu près l'éventail de tout ce que l'on peut...
Oui,
pour vous connaître, on a à peu près tout.
Il y a beaucoup de choses, voilà. C'est toute cette période. Peut-être qu'il y aura un autre DVD ou coffret qui prendra la période suivante, quoi.
On va terminer avec Paco Mtielman. Vous dites que les films de Bertrand Mandicot appartiennent à la zoologie fantastique.
Oui. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de ce cinéma. Je crois qu'on a compris. Je cache difficilement mon enthousiasme. Mais je suis tombé amoureux de quelque chose que je comprenais pas ou que je ne connaissais pas. Je reconnaissais des morceaux. Je reconnaissais des morceaux d'imaginaire, mais je les avais jamais vus associés ainsi et produisant ça. Alors peut-être que c'est lié à la forme, au soin particulier qu'il y a dans l'image. Vous avez parlé plusieurs fois, on a tous parlé un peu des couleurs, de la chatoyance des couleurs, du caractère grandiose. C'est-à-dire que ça prend à la gorge et la première seconde. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, j'ai pu apercevoir un tout petit peu du long métrage que prépare Bertrand, Les Garçons Sauvages. Mais dès la première seconde, il y a un truc qui accroche le cœur et on sait que c'est gagné dès ce moment-là. Enfin, pour moi, l'expérience du cinéma, si elle a un sens, elle est là. C'est le contraire d'ailleurs de l'expérience de la série. Une série devient vraiment intéressante au bout de très très longtemps. C'est un truc où on laisse vraiment le temps arriver. Tandis que le cinéma, si ça prend pas à la gorge à première seconde, on rentrera jamais. C'est une forme de transe. Et ça joue véritablement sur ce type de transe-là. Et une transe qui est très singulière parce qu'on a beau les revoir plusieurs fois. Il y en a certains que j'ai revus vraiment 6, 7, 8, 9, 10 fois. Borrow in the Box ou Notre-Dame des Hormones. On a beaucoup de mal à les résumer ensuite. On a toujours autant de mal à les raconter. Quand on les raconte, c'est un peu comme, vous savez, on a rêvé qu'on voyait un film. ça joue avec ce type d'émotion-là, et c'est extrêmement rare qu'on le retrouve dans des films. C'est-à-dire l'impression, pas d'avoir vu un film, mais d'avoir rêvé qu'on avait vu un film. Et on ressort des films de Bertrand un peu comme ça, c'est étrange. J'ai rêvé que j'allais au cinéma, que je voyais un film dans lequel il y avait deux comédiennes. Elles répétaient, je crois, une pièce de théâtre dans la forêt, et là, elles tombaient sur une créature, enfin une créature, une chose. Et elles se disputaient autour de cette chose. À un moment, un homme ou une femme, je ne sais plus trop, arrivant en moto, c'est un peu comme ça.
Voilà, l'essentiel, c'est la transe, Bertrand Mandicourt.
Exactement. Ouais.
Merci de nous avoir accueillis.
Bah, merci à vous.
Serez attentif au destin de vos garçons sauvages. Merci donc à Bertrand Mandicourt de nous avoir accueillis, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Yann Frécy, Georges Thau, Claire-Martin Ducard, Chloé Leblon, Céline Duchesnay, Paco Mthielman, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir écouté Mauvais Genre. On se retrouve samedi prochain pour une émission bande dessinée. Et maintenant, Métronomique avec Amaury Chardot.